inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 23.
La mort qui rôde.
Si en France, les deux derniers poilus, Louis de Cazenave et Lazare Ponticelli, nés tous les deux en 1897, se sont éteints en 2008 à l'âge de 110 ans, des milliers d'hommes sont morts au front très jeunes. Le banquet de la vie à peine commencé, pour reprendre le vers d'André Chénier cité par André Vitaux. La peur est donc omniprésente, non seulement dans le fracas de la bataille, mais aussi dans le bruit à peine perceptible et d'autant plus inquiétant que font les sapeurs allemands. André Vitaux décrit l'état d'esprit qui règne dans sa tranchée de Lintrai, à l'est de Lunéville, en juin 1915.
Il y avait autre chose sur cette position qui nous impressionnait autrement, qui nous crispait et tendait nos nerfs à l'extrême. C'était la menace permanente d'être projetés à 50 mètres en l'air, déchiquetés et brûlés par l'explosion d'une mine. Car pendant les moments de calme, nous avions décelé un faible bruit, étrange et souterrain, qui se situait juste au-dessous de nous. Bruit que nous croyions être et qui se révéla exact plus tard, les coups de pioche d'un sapeur allemand. À chaque instant, nous collions nos oreilles à terre. Il n'y avait pas de doute, ce n'était pas une illusion. C'était bien de réels coups de pioche que nous entendions. On creusait en dessous de nous. Chose qui peut paraître bizarre, mais la situation dans laquelle nous étions nous faisait désirer, même apprécier, pour notre tranquillité, d'entendre le bruit de cette pioche qui creusait au-dessous de nous. Car, pensions-nous, tant qu'ils creusent, ils ne bourrent pas leur mine. Mais dès que pendant une certaine période, ce bruit ne se percevait plus, alors là, nous nous attendions à chaque instant à être projetés en l'air, brûlés et déchiquetés.
Puis vient le moment où les bruits assourdissants, le manque de sommeil et d'alimentation, la soif, la peur, la souffrance empêchent de penser par soi-même. Les images viennent d'elles-mêmes. Et plusieurs poilus ont su les retranscrire fidèlement. Dans son trou pestilentiel, André Vitaux, au milieu de l'enfer de Verdun, en juillet 1916, tâche de survivre.
Des quantités de pensées m'assaillent. Je pense à mes pauvres parents qui ont déjà perdu un fils à la guerre et en danger d'en perdre encore deux autres. Leurs souvenirs réchauffent le cœur, réconfort dont nous avons bien besoin en ce moment. Je pense à ces belles filles aux yeux prometteurs qui réservent tant de bonheur à ceux qui auront la chance de survivre. Mon Dieu, au secours, on nous assassine, venez à notre secours, ne nous abandonnez pas. Un genre de folie s'empare de nous. D'ailleurs, des fous, les pauvres, qui n'ont pu résister, errent dans les parages. On en a aperçu, quelques-uns ont pu être récupérés. Cette folie est compréhensible, ayant atteint le sommet de l'épouvante et du désespoir. Ce traumatisme moral nous poursuivra toute notre vie. Les strophes de la jeune captive d'André Chénier me remontent à l'esprit. L'épi naissant mûri de la faux respectée, sans crainte du pressoir, le pampre tout l'été boit les doux présents de l'aurore. Et moi, comme lui belle et jeune comme lui, quoique l'heure présente ait de troubles et d'ennui, je ne veux point mourir encore. Mon beau voyage encore est si loin de sa fin. Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé les premiers à peine. Au banquet de la vie à peine commencé, un instant seulement mes lèvres ont pressé, la coupe en mes mains encore pleine. Ô mort, tu peux attendre. Éloigne, éloigne-toi. Va consoler les cœurs que la honte, l'effroi, le pâle désespoir dévorent. Pour moi, palais encore, à des asiles verts, les amours, des baisers, les muses des concerts. Je ne veux point mourir encore. le sifflement des obus de tout calibre et les vibrations continuelles de l'atmosphère nous jetaient dans un engourdissement léthargique qui pouvait, si l'on y prenait garde, aller jusqu'au sommeil. Pour ma part, je luttais de toutes mes forces contre l'envahissement du sommeil, et cependant parfois j'arrivais à y succomber. J'avais horreur d'être tué en dormant. Et pourtant, comme ce sommeil nous faisait du bien, ce sommeil qui serait si bon, qui nous emmènerait loin de cette géhenne, dans des rêves irréalisables, dans un cauchemar même qui ne pourrait pas être plus horrible que celui que nous vivons ici, sur cette terre maudite.